mon nom est venu conclure. Bon, parce que nous avons puisé le sujet, mais parce que le calendrier est dit, conformément au bon usage, je me livrerai à un petit bilan récapitulatif du chemin parcouru, un bilan destiné surtout à mettre en relief ce qui reste à faire et à ouvrir sur les suites que ce séminaire avait. Sa vocation était d'inviter à la réflexion, il aura atteint son but s'il suscite quelques commentaires. Et comme la meilleure manière de conclure, si justement d'ouvrir sur l'avenir, nous consacrerons la seconde partie de cette dernière séance à un sujet d'avenir. Un sujet qui n'en est qu'à ses débuts, mais qui promet de donner une actualité durable aux problèmes que nous nous sommes efforcés de cerner au cours de ces deux années de recherche. Ce sujet, c'est l'impact de l'ère numérique sur la pédagogie et sur l'école. Nous sommes partagés la tâche avec Marie-Claude Blais, qui sera part de sa première analyse sur la question. Ce sujet a une raison très directe de nous intéresser dans le cadre de ce séminaire, c'est qu'il est fait pour déployer toutes les conséquences du diagnostic qui nous a servi de point de départ et de toile de fond, à savoir le basculement d'un modèle scolaire qui restait centré sur la transmission vers un modèle centré sur l'acte d'apprendre. Modèle qui n'est autre chose, nous l'avons vu, que la traduction pédagogique de la grande vague d'individualisation qui a transformé de fond en comble la vie de notre société depuis les années 1970. Avec le numérique, cette individualisation de l'apprendre a trouvé en quelque sorte une expression et un levier technique qui promettent de fonctionner comme un multiplicateur et donc il n'y a que Dieu d'augurer qu'ils vont que ce multiplicateur va donner toute sa puissance à l'évolution en cours, en même temps bien sûr que tout leur relief aux problèmes qui sont attachés à cette évolution. L'ère numérique nous annonce une version radicale de ce renversement du transmettre au profit de l'apprendre qui va faire surgir sur la place publique les questions tout juste émergentes que nous avons essayer de faire apparaître. Vous l'avez bien compris, au travers des analyses que nous avons eu l'occasion de mener, il ne s'agit pas, à notre sens, surtout pas, de déplorer cette évolution et d'opposer une bonne philosophie supposée de la transmission à une mauvaise philosophie par principe de l'apprentissage. Comprendre ce basculement permet de mesurer son appartenance à la dynamique profonde de notre univers civilisationnel. Est-ce qu'il avait en un sens d'inéluctable dans le mouvement de la modernité? Dès lors que les circonstances donnaient à son programme l'occasion d'aller à son terme. Le moule de la société de tradition qui continuait d'imprégner et de conditionner le modèle de la transmission était voué à se dissoudre tôt ou tard dans le système futuriste et individualiste qui est le nôtre et qui continue de s'affirmer. Mais dans l'autre sens, comprendre ce que cette évolution a de typiquement moderne et de profondément inscrit dans les prémices et les lignes de force de notre monde ne doit pas nous empêcher de reconnaître et de penser ce que cette évolution a de profondément problématique. Comme à chacune de ces étapes, la dynamique moderne se révèle source de difficultés fondamentales avec lesquelles elle nous laisse nous débattre. En ce sens, il n'y a pas là une philosophie de l'histoire fataliste. Il y a des choses qui appartiennent à l'accomplissement d'un programme, mais la manière dont nous gérons les conséquences de ce programme et de son déploiement nous appartient entièrement. L'ordre de la transmission était problématique lui-même, et les critiques dont il a fait l'objet, à longue date, de façon amplifiée dans la dernière période, étaient, sur le fond, parfaitement justifiées. L'ordre centré sur l'apprendre, dont nous essuyons les plâtres, est tout aussi problématique, d'une autre manière. Nous pouvons résumer ce passage en disant que nous avons basculé d'un unilatéralisme à l'autre. Ce qu'il y avait d'unilatéral dans le système de la tradition transmission consistait à ne voir que les contenus à transmettre au détriment des moyens d'acquérir ces contenus. Ce qu'il y a d'unilatéral dans notre philosophie individualiste de l'apprendre aujourd'hui dominante consiste à ne regarder que les acquisitions personnelles en se désintéressant du bagage qu'il s'agit d'acquérir. En d'autres termes, l'unilatéralisme précédent ou ancien tendait à ignorer le comment est-il possible d'acquérir. L'unilatéralisme nouveau tend à méconnaître le quoi, ce qu'il s'agit d'acquérir. Contre ces illusions d'optique symétrique et inverse, ce que nous nous sommes employés à esquisser, au fond, c'est une philosophie réaliste des acquisitions éducatives. Nous avons essayé, dans cette perspective, d'établir et d'étayer deux points. Premièrement, il y a un incompressible de la transmission. On peut vouloir l'ignorer. Elle est là, et plus que jamais là. Le rôle des familles dans le destin scolaire des élèves est son attestation la plus directe. Plus l'institution scolaire se détourne dans ses méthodes, son projet, sa démarche, de la dimension transmissible, plus la place des familles prend le relief dans sa complexité, complexité nouvelle. Car cette place est loin de se réduire à une simple réfraction des déterminismes sociaux, économiques, comme une sociologie simpliste nous a trop habitués à le considérer. Aujourd'hui, en tout cas, cette transmission familiale est autant et davantage une affaire d'attitude, de culture, de style éducatif, comme on dit, qu'une affaire de position sociale qui, par une magie plus ou moins inexplicable, tendrait à se reproduire d'elle-même. Toujours est-il que le point qui nous est là démontré par la place du déterminisme familial, de l'héritage familial, l'éducation, plus que jamais présent, le point qui nous est démontré, c'est que la transmission fonctionne et qu'elle est destinée à continuer de fonctionner hors du cadre de la société de tradition où elle avait son site primitif. La société de tradition peut bien disparaître jusque dans ses dernières traces ou vestiges, la transmission demeure parce qu'elle est à penser sur le fond indépendamment du cadre de la société de tradition. Elle est à penser comme une dimension anthropologique dont il s'agit de repérer les ancrages. Ce qui est mort, ce sont les formes et les modalités de la transmission qui découlaient de ce cadre de tradition. Mais en tant que telle, les dimensions de transmission perdues de par ces enracinements anthropologie dont elle dispose. Nous avons essayé de les circonscrire, content de les rappeler rapidement, hein, nous avons un peu les ramener in fine à quatre ancrages principaux, tenant le premier à notre condition temporelle, à la dimension d'antériorité dans l'expérience humaine et dans le vécu de la société. Second ancrage, la dimension subjective et interpersonnelle de tout savoir qui le destine effectivement à passer par le canal de la transmission. Troisième ancrage que nous avons essayé de créer, la dimension initiatique ou ésotérique de tout savoir, y compris les plus formalisés, les plus apparemment logiques, les plus obéissants à la transparence rationnelle. Enfin, en dernier lieu, quatrième et dernier lieu, une notion qui n'est pas vraiment démocratique, l'enjeu symbolique de l'ordre éducatif. Éduquer, c'est conduire une certaine action en direction des nouveaux venus, que sa dimension symbolique rend étroitement associée à la dimension de transmission. Cela s'incarne dans les personnes et cela passe par le lien vivant entre les hommes. La transmission, en un mot, représente un axe irréductible du processus éducatif. Elle ne revêtira plus jamais, c'est entendu, les formes qu'elle a pu revêtir par le passé. Mais elle n'en constitue pas moins une dimension incontournable qu'il s'agit de se réapproprier pour en donner des versions modernes. les versions congruentes avec nos principes. Et si nous n'effectuons pas ce travail de réintégration, cette dimension de transmission est appelée à jouer comme un facteur clandestin, perturbateur, non maîtrisé et au final déstabilisant pour le système éducatif, ne serait-ce que par les énormes inégalités qu'il est susceptible de créer. Il s'agit donc de, contre cette clandestinité, de la réintégrer en conscience et de lui faire une place réfléchie. C'est à coup sûr l'un des grands défis de l'école et de l'éducation de demain. Cela passe notamment par ce qui n'est pas le plus simple à envisager, qui est un discours public sur la responsabilisation des familles dans le domaine éducatif. En s'est entendu, les familles ne peuvent pas transmettre ce qu'elles ne possèdent pas, le cas de chair, mais toutes elles peuvent disposer les enfants à la transmission. Et nous attendons les hommes publics qui auront le courage de leur tenir ce discours. Le deuxième point que nous avons établi est essentiellement négatif. Il est essentiellement négatif en ceci. Nous voudrions au moins pouvoir faire ressortir combien que nous savons ce que veut dire apprendre, si ce n'est pas du tout. Nous vivons sur des représentations très artificielles de ce qui se joue dans le fait d'apprendre. Et le plus souvent, on le voit très bien dans la littérature pédagogique, ce qui est donné comme une démarche repose en réalité sur une vision juridique ou politique de l'individu qui serait supposé commander aussi l'appropriation personnelle du savoir ou la construction fameuse des apprentissages. Ces représentations ne nous disent rien de ce qui se passe réellement dans la tête de ce qui a fait. Tout dans ce domaine est à faire. Nous avons pu mesurer ce caractère ouvert du problème en examinant en dernier lieu, dans nos séances récentes, les œuvres de Piaget et de Vygotsky que nous pouvons venir le sommet de la réflexion en la matière du XXe siècle, nous avons vu comment nous reposons à cet égard sur un stock d'idées qui date des années 1920-1930 et qui demande pour le moins à être soit revisité sérieusement, soit prolongé. Soit parce que, nous l'avons vu dans le cas de Piaget, elle ne traite pas réellement le problème dont elle se donne pour la solution, soit parce que dans le cas de Vygotsky, elle ouvre des perspectives, des pistes qui attendent d'être systématisées, explicitées, développées, si pertinentes qu'elles soient. En un mot, nous bricolons dans ce domaine avec des images du moins magique de l'alchimie cérébrale sans véritablement savoir ce que nous faisons. Il se trouve que les enfants réussissent à apprendre, c'est tant mieux, mais ce n'est pas grâce à nous. C'est parce qu'il se trouve que nous arrivons à faire quelque chose qui marche, mais nous n'en avons pas l'explicitation. Et, puisque nous en parlions la semaine dernière avec Lionel Macquart, je pense que c'est un public, ce ne sont pas, en l'état actuel des choses, les apports des neurosciences de la cognition qui sont susceptibles, immédiatement en tout cas, de nous apporter des lumières déterminantes et des prescriptions étayées dans ce domaine, si tant est qu'elles doivent y parvenir un jour. Point. Sauf que je me garderai bien de trancher, mais qui me paraît légitime à considérer. C'est pourquoi il me semble nécessaire de repartir dans ce domaine d'une phénoménologie de la situation scolaire, dans ce qu'elle a de spécifique. Il faut revenir au plus élémentaire, au primordial. Ce qu'on vient spécifiquement apprendre à l'école. Je ne dis pas qu'on n'y apprend que ça, mais je dis que ce qu'on y apprend spécifiquement, c'est le maniement du langage sous son aspect écrit, c'est-à-dire son aspect objectivé et contrôlé. Dans la diversité de ces registres, l'objet primordial de l'école, si on écarte tous les paramètres de l'indice, c'est l'étude, c'est la maîtrise de l'univers des signes graphiques. Tout se joue là, au sens où tout le reste en dépend. Par des liens proches, ou des consécutions éloignées. S'il fallait le dire d'un slogan, je vous en proposerai un. L'école doit opérer son tournant linguistique. Tout le monde l'a fait, mais pas elle. Ce slogan, dangereux comme tous les slogans, étant surtout à interpréter, à interpréter comme l'invitation à importer par la pédagogie les démarches des disciplines qui ont opéré ce tournant. Ce ne serait qu'une catastrophe supplémentaire. Mais il est à comprendre comme une invitation de la pédagogie à développer ses propres explorations sur ce que l'acte d'apprendre est susceptible de nous révéler du langage, de tous les langages, à commencer par l'apprentissage de son maniement. Et je suis tout à fait convaincu, philosophiquement parlant, que l'analyse de l'acte d'apprendre est susceptible de nous instruire grandement sur l'élément de la signification et sur l'ordre symbolique. Cette analyse est susceptible de nous apprendre des choses sur lesquelles la stricte analyse du langage ne nous a pas mené loin jusqu'à présent. Pour ouvrir quelque peu sur cette entreprise qui sera l'occupation du siècle qui s'ouvre, on peut raisonnablement l'augurer, je voudrais esquisser un programme si le mot n'est pas trop ambitieux, en trois points. Pour commencer, il est nécessaire de poursuivre la critique des modèles épistémiques qui dominent la réflexion pédagogique actuelle. Nous l'avons effleurée, évoquée, elle est à systématique. Ces modèles sont clairement entachés d'un triple fait. Ils ne connaissent la spécificité du fait d'apprendre en privilégiant le modèle de la connaissance. Invinciblement, la pédagogie nous ramène l'apprendre au connaître. Nous en avons eu un exemple particulièrement saisissant avec Piaget, qui en fait reconstruit de manière abstraite en fait une sorte de vision de la pédagogie à partir de ce qu'il établit sur le devenir de l'esprit humain dans ses opérations de connaissance. Or, apprendre est quelque chose d'entièrement spécifique par rapport au fait de connaître. Ces modèles épistémiques qui guident la réflexion pédagogique sont inconsciemment commandés par, j'y faisais allusion tout à l'heure, par l'abstraction juridique et politique de l'individu autonome. Grattez le jargon pédagogique, et ce que vous trouvez, c'est un discours politique, d'ailleurs, maintenant qui se cache à peine, puisque on passe très vite du pédagogique au citoyen, hein, dans le jargon du moment. Apprendre, c'est ainsi. Je crois qu'il faut, s'il y a une rectification, un ajout à opérer aux déclarations des droits de l'homme, il consiste dans cet article 5. Les hommes ne naissent pas adultes. Apprendre, c'est précisément la démarche par laquelle on devient un individu autonome. Qu'on est un individu autonome, qu'on n'est spécialement pas sous l'angle du langage. En tant qu'être parlant, on est généralement parlé. Parlé, parlez-vous. Ça, c'est moins une chose que la philosophie du langage, que le texte va bien montrer, depuis Wittgenstein. Les mots nous parlent. Il arrive, au prix d'un grand effort, que nous parlions en première personne. Et c'est la chose du monde qui est la plus difficile dans le registre du discours. Au fond, apprendre, c'est passer de l'être parlé à l'être parlant. Enfin, ces modèles épistémiques sont entachés, nous l'avons vu à plusieurs reprises et divers angles, d'un naturalisme et d'un évolutionnisme qui leur fait ignorer l'irréductible originalité du niveau de la signification et de l'ordre culturel où opèrent en propre les institutions éducatives. Voilà, évidemment, c'est un programme politique, schématique, pardonnerait, n'est destiné qu'à être suggestif. Voilà pour mon premier point. J'en viens à ce deuxième article de ce programme, trois points. Une manière, une proposition, sans pouvoir être formulée, c'est une manière d'avancer sur cette terra incognita qu'est l'acte d'apprendre et d'analyser les opérations de l'esprit impliquées dans l'acte d'apprendre. Et il suffit d'aller les regarder d'un peu près pour voir combien nous savons peu à leur sujet. La première est la compréhension ce qui nous permet d'appréhender les significations. Au niveau le plus élémentaire, au niveau le plus élaborant. Les choses les plus simples à comprendre aux choses les plus difficiles. C'est en fait une opération fort peu évidente, qui comporte de multiples faces. Une face passive, la réception. L'expérience la plus banale, l'expérience scolaire la plus banale qui soit, et dans tous ses registres. Je ne comprends pas. Parce qu'en effet, entre la signification et n'importe quel esprit humain, par des degrés variés, s'interpose une exigence et une démarche qui est le rôle des pédagogues, qui traite en général ce problème par une recette simple, qui est la répétition. Mais il ne suffit pas forcément. Ce filtre, c'est la familiarisation. La signification, c'est très étrange, c'est quelque chose qui s'apprivoise. La première fois que vous en entendez parler, ça vous paraît très mystérieux. La deuxième, ça se rapproche un peu. Et à la troisième, mystérieusement, ça vous devient clair. Et à ce moment-là, vous oubliez, d'ailleurs, que toutes les difficultés que le premier énoncé d'une question, d'un problème, d'un domaine vous a provoqué, vous étiez étonné, vous êtes passé de l'autre côté. Je dirais, pour être enseignant, il faut avoir gardé la mémoire de cette difficulté à se familiariser avec une question. Si on l'a oublié, on aura toujours énormément de mal à faire comprendre quelque chose. À qui ce soit. L'opération comporte une face active, qu'on peut appeler le décryptage ou le déchiffrement. Nous avons eu l'occasion de parler, nous avons vu quel abîme se recouvre ce simple. D'une manière générale, la compréhension implique cette chose qui là non plus ne va pas du tout de soi, qui est la possibilité de se former une représentation à son propre usage de quelque chose qui vous est d'abord donné sous la forme d'un énoncé verbal, ou écrit, peu importe. Pensez à votre expérience, nous sommes confrontés quotidiennement à des énoncés qui ne nous disent absolument rien. Nous ne sommes pas capables, à partir d'eux, de nous faire une représentation de quoi que ce soit. Ce que les gens, l'expression populaire, pour ça, ça ne nous dit rien. Je ne peux pas, ce que les psychiatres appellent mentaliser, je ne peux pas me faire une représentation de ce que vous dites. L'expérience la plus vulgaire de cela étant bien connue aujourd'hui, c'est l'évocation des chiffres d'endettement, par exemple, hein, des États. 80 milliards d'euros, nous avons consenti un prêt. Ça veut dire quoi? Les gens vous disent, je ne peux pas me rendre compte. Ben oui, effectivement, on ne peut pas se regarder des choses. Il est très difficile de se représenter. Eh bien, c'est vrai au niveau le plus élémentaire. C'est là quelque chose, parce que c'est là quelque chose qui engage ce qu'est l'ordre symbolique pour l'humain. La capacité de s'approprier par la représentation des choses de son environnement. Très concrètement parlant, par exemple, l'enjeu caché de d'enseignement dont les difficultés tiennent exactement à cela, comme l'histoire et la géographie, qui sont un apprentissage de l'espace et du temps figuré, représentable. Comment se transporter dans un temps très éloigné, ou se trouver l'équivalence d'une représentation sensible de cet espace incroyablement abstrait qui est celui qui figure sur des cartes. Autre opération problématique qui renvoie cette fois à l'activité de l'être par l'expression. Elle est à décomposer. Elle implique une intention expressive. D'ailleurs, on remarque au passage, les philosophes se sont obstinés à nous parler de l'intentionnalité en la considérant généralement, c'est très frappant, abstraction faite du langage. C'est l'exemple type dans phénoménologie française, c'est moi. La perception, mais très généralement pour nous, l'intention a la forme d'un vouloir dire, d'une intention d'expression. Une intention et un travail sur les vecteurs disponibles pour aboutir. Contrairement à ce que si je insiste sur cette décomposition, c'est que nous vivons l'école tout spécialement sur une représentation totalement fausse que le développement de ce qu'est l'expression, comme si le sujet, en quelque sorte, se projetait dans ce qu'il va dire, comme s'il était dans son expression. C'est le contraire. Généralement, le sujet est en décalage complet par rapport à ce qu'il réussit à dire, par rapport à ce qu'il voulait dire. Et c'est dans cet écart-là que travaille l'institution. Faire mieux dire ce qui voulait être dit, mais ne parvenait pas à se dire. C'est parce qu'il y a cet écart interne à l'expression entre son aboutissement et l'inspiration qu'il apporte, qu'il y a pédagogie possible, qu'il y a lieu d'apprendre à parler, à écrire, à s'exprimer. Nous ne sommes jamais pleinement dans ce que nous disons, qui est indéfiniment à reprendre. Et c'est pour ça que nous admirons les écrivains qui sont ceux qui précisément se consacrent à élaborer à grande difficulté un dire qui paraît miraculeusement adéquat. On le sent à l'intention expressive qui est derrière. Cela nous mène à l'exploration de la réflexivité engagé dans le langage et dans la capacité d'apprendre, c'est toujours réfléchir. Dans un sens bien précis, c'est revenir sur son état antérieur, en mesurant ce qu'on ignorait. Tiens, je ne le savais pas. Tiens, je ne m'en rendais pas compte. Ou en se corrigeant de ce qu'on croyait savoir. Un point, d'ailleurs, sur lequel la didactique des sciences a beaucoup insisté en exagérant sensiblement les proportions du phénomène. C'est pas la même chose que de mesurer qu'on ne savait pas et que de vouloir absolument faire dire aux enfants qu'ils avaient des représentations de choses qui étaient simplement inimaginables pour eux. C'est une légère erreur dans la démarche. Mais c'est cette réflexion, aussi opération de l'esprit que nous croyons connaître, sur laquelle nous savons vraiment très peu, c'est cette opération de réflexion qui est l'opération fondamentale qui porte l'organisation des savoirs que l'on acquiert. L'apprenant, comme on dit, ne construit certainement pas ses savoirs, mais il les organise à tout moment sans avoir besoin d'y penser par la réflexion. La réflexion qui lui permet d'intégrer ce qu'il acquiert dans un ensemble suffisamment cohérent pour qu'il en ait le manie. Dernière opération et suprême opération à interroger, l'abstraction. L'abstraction au sens d'une activité. Nous abstrayons, parce qu'on parle de manier des abstractions, chose remarquable, totalement trompeuse. Nous n'arrêtons pas de procéder à des abstractions activement. Nous catégorisons, nous organisons les choses qui sont devant nous, cela commence dans la perception. Nous en parlions avec Lionel Lacache à propos du champ visuel la semaine dernière. Nous catégorisons, nous conceptualisons, nous formons des abstractions grâce à la réflexion. Toute représentation que nous nous formons procède d'un travail d'abstraction, en un sens. Il n'y a que des représentations par abstraction qui supposent un travail de l'esprit. Mais c'est un travail qui se poursuit à plusieurs degrés d'élaboration, jusqu'à l'abstraction consciente d'elle-même, qui est ce que nous appelons généralement l'abstrait, le concept abstrait. C'est que c'est cette catégorie très particulière de l'abstraction, de l'opération d'abstraction qui aboutit à un résultat objectivable, stable et conscient. Et c'est cette opération qui constitue la clé de la maîtrise de l'esprit par lui-même. La possibilité qu'il a de diriger ses opérations. Ce qui nous donne la maîtrise de nos, la possession de nos représentations. C'est toujours par une abstraction par rapport à nos représentations que nous arrivons à les guider, à les évoquer, à les changer, à les enrichir. En un mot, l'abstraction, c'est ce qui fait cette particularité assez remarquable de l'espèce humaine qui est de vivre selon des idées, au-delà de sa représentation. C'est là notre production la plus originale. Les ordinateurs n'ont pas, et je pense que nous pouvons aller jusqu'à dire, n'auront jamais d'idées. Ils ont une grande capacité, mais pas celle-là. Nous ne nous proposerons pas des idées alternatives par rapport à celles entre lesquelles nous les avons construites. Toutes ces opérations, ce sera non, ce point, toutes ces opérations ont en commun, vous l'aurez remarqué, qu'elles ne s'apprennent pas au sens où nous aurions à les acquérir à partir de rien. Toutes ces opérations sont là, présentes en germe dans le langage, dans le fait de parler. Mais elles se cultivent. Et apprendre consiste précisément dans leur culture, qui peut rendre à des degrés divers. Les humains que nous sommes, conscients de ces moyens et donc capables de les utiliser d'une manière instrumentale. nous avons des outils de pensée en ce sens-là, en ce sens précis. Troisième et dernier point programmatique que je voulais aborder quand je vois le développement d'une psychologie, d'une philosophie, il ne voudrait dire sans doute d'une anthropologie réaliste de la vie. Par rapport à cet inventaire des opérations de l'esprit qu'il implique, nous pouvons procéder par circonscription d'un domaine. Ce domaine est à plusieurs entrées. J'en vois quatre principales qui correspondent aux questions de base, aux quatre questions qu'on ne peut pas ne pas se poser. Qui apprend ? Pourquoi ? Grâce à quoi ? En vue de quoi ? Qui apprend ? Entendons-nous ? Quelle est la part de nous-mêmes mobilisée lorsque nous apprenons quelque chose ? C'est très exactement ce dont nous parlions la semaine dernière avec Lionel Nakache, avec un enseignant qui dit l'information objective est neutre, connaissance à proprement parler, il y a, lorsqu'il y a mobilisation d'un sujet qui a quelque chose à faire et qui fait quelque chose de l'information qui lui est accessible. Nous pouvons reprendre le terme de sujet en étant conscients de la grande difficulté qu'il y a à le manier. C'est une notion qu'on emploie désormais à tout bout de champ pour lui faire dire en général n'importe quoi. Mais elle a ici son utilité. Et on peut le justifier dans l'emploi fondamental de la catégorie de subjectivité, apprendre engage la subjectivité. En ceci que l'apprendre est l'acte par excellence par lequel se constitue la subjectivité. Elle ne lui préexiste pas. Elle est ce qui émerge dans le fait. Dans un autre langage, qui a aussi ses lettres de noblesse, on pourrait dire c'est un pour-soi qui apprend. Et pour lequel il y a du sens à apprendre. Apprendre, c'est toujours d'une manière ou d'une autre travailler sur soi pour approfondir la dimension de pour soi. Cette remise en question, autrement dit, apprendre, c'est remettre en question l'état actuel de soi en vue d'un autre état de soi augmenté, renforcé, affirmé. Cette remise en question ne va pas d'opération naturelle et tellement pas qu'elle peut être refusée, qu'elle peut être repoussée, rejetée, avec la dernière énergie. Nous avons le cas des enfants, mais cela se poursuit, ça aussi ça se poursuit tout au long de la vie, qui refusent d'apprendre, qui ont peur d'apprendre, qui rejettent l'idée même. À cet égard, l'une des choses qui que nous aurions pu envisager pour prolonger le travail de sociomoniteur était de nous pencher sur le travail d'un éducateur qui a fait dans ce domaine une exploration tout à fait pionnière qui s'appelle Serge Boimard. Donc, le travail est très éclairant, par a contrario, sur ce qui permet d'apprendre, sur l'acceptation première. Ce n'est pas une activité biologique qui va de soi comme manger.
Comment s'écrit Boimard ?
B-O-I-M-A-R-E. C'est un peu plus. Il a publié deux livres, je crois,
plusieurs fois, il a peur d'apprendre.
Cette surrefus fait évidemment ressortir à contrario la nécessité d'interroger le désir de l'autre. Quels sont les affects primordiaux, les existentiaux qui sont engagés dans cette affaire? Pourquoi apprendre? Quelle est cette pulsion? Alors, nous savons qu'elle est déstabilisante, en effet, qui nous porte dans cette direction. C'est une autre manière d'aborder, évidemment, la fameuse question du sens. Qu'est-ce qui fait que l'humanité est apprenante? Et à l'évidence, il y a autre chose que l'adaptation à l'environnement naturel et le désir des plus riches, des plus puissants. Évidemment, à un point, nous sommes là dans un registre qui nous faisait parler plutôt de préférence d'anthropologie plutôt que de psychologie. Grâce à quoi prenons-nous? Grâce à ces opérations impliqué dans le langage et dont l'écriture a permis l'explicitation, le développement de la culture, je n'y reviens pas. Quelques mots en revanche sur la finalité de l'apprentissage. En vue de quoi apprenons-nous? Eh bien, je crois que cette question, nous pouvons répondre de façon fondamentalement en vue du travail, dans le sens large et fort du terme. Nous apprenons en vue de l'accomplissement d'une tâche ou d'une fonction. Nous apprenons, c'est d'ailleurs au passage le noyau rationnel de la notion de compétence, dont on a pu faire par ailleurs un très mauvais usage, mais qui touche à quelque chose de tout à fait vrai. La question n'est pas simplement de disposer de connaissances, mais de savoir comment les utiliser. Sauf que compétence ne fait que déplacer le problème d'un cran. On apprend pour être en mesure de travailler. C'est d'ailleurs ce qui a fait en son temps le rayonnement extraordinaire de la pédagogie de Célestin Freinet, qui avait parfaitement saisi cette dimension de l'éducation. C'est la dimension sociale de l'acte d'apprendre qui est essentielle. Les enfants ne vont pas à l'école en tant qu'animaux qui ont simplement à survivre et à accomplir des fonctions biologiques. Ils y vont en tant qu'êtres socialisés et pour la société. Donc la vie trouvera sens pour une ou deux ses parts dans le travail que le fait d'apprendre nous mettra en mesure d'exercer. Le problème, on apprend fondamentalement, on apprend fondamentalement à travailler. Ce que la sagesse de la science savent, d'une certaine manière, les discours sur l'école en témoignent, c'est que nous avons tendu fâcheusement à oublier. Dans l'autre sens, il y a toute une réflexion à conduire, à réactiver, à remettre à l'actualité sur cette notion de travail déconsidérer contingente finalement, alors qu'il y avait véritablement, je crois, une notion anthropogène qui signe la spécificité de l'humain. Je vous signale au passage un livre dont je crois que nous avons déjà eu l'occasion au moins de l'évoquer, de Richard Sennett, qui est paru récemment, qui s'appelle « Ce que c'est la vie ». La culture de l'artisanat. Alors, la notion d'artisanat qui se développe est une notion très élargie. Il cherche à montrer que même dans les métiers les plus modernes, informaticiens, programmeurs, c'est toujours d'un artisan qu'il s'agit. Même dans ces métiers qui sont très loin de l'artisanat au sens traditionnel, les valeurs restent celles de l'artisanat, avec tout ce que ça implique de mobilisation, de savoir-faire, mais aussi d'aspiration au travail bien fait, hein, tout comme que l'organisation de nos sociétés n'encourage pas nécessairement au jour d'aujourd'hui. Il résume son travail dans une formule qui me paraît très juste, faire ses pensées. Et finalement, c'est bonne définition du travail. C'est l'association d'une action, d'une tâche et d'une pensée. L'intelligence incorporelle dans n'importe quelle, l'exécution de n'importe quelle tâche ou de n'importe quel geste proprement humain. Le geste sportif, par exemple, exemplairement. Un geste pensé. C'est là toute sa différence avec le geste naturel, c'est un geste cultivé, culturel, qui suppose un travail pour pouvoir l'effectuer correctement et qui mérite, en ce sens, d'être replacé dans sa dignité intellectuelle. Comme vous voyez, ces quelques observations programmatiques l'auront fait sentir, il y a du pain sur la planche. Dans ce travail d'exploration et de réflexion que nous avons fait quand on ouvrit. Mais à côté de ce travail de fond, il y a les sollicitations d'actualité et la nécessité de lutter contre les dévoiements idéologiques dont le domaine éducatif est collectivement. Nous sommes, de ce point de vue, c'est ce que je disais en commençant, probablement à la veille d'une embardée de grande ampleur suscitée par les promesses plus ou moins illusoires de la technologie et par les intérêts qui lui sont attachés. Nous avons vu, à l'occasion du récent IG8, un manifeste qui ne vous a peut-être pas échappé, d'un philanthrope bien connu, qui mérite le détour. Si au bout cas, le philanthrope en question est Rupert Murdoch, propriétaire et PDG du groupe de médias News Corp, bien connu spécialiste, qui nous a gratifié dans Le Monde d'un texte auquel je vous renvoie si vous ne l'avez pas lu, c'était Le Monde du 26 mai, daté du 26 mai. Le numérique permettra l'égalité scolaire. Il s'agit d'un philanthrope, il veut l'égalité scolaire. En tout désintéressement. L'école doit s'ouvrir au progrès technologique et d'expliquer qu'on a là une institution invraisemblable, puisque en gros, sa forme extérieure est la même qu'à l'époque des premières locomotives à vapeur, c'est quand même fâcheux, en l'air où nous sommes. Évidemment, qu'est-ce que nous trouvons là? Un discours dont on peut le montrer au passage, exactement le même que celui qui accompagnait les débuts de la radiodiffusion, puis ceux de la télévision un enseignement plus personnalisé, plus individualisé, côté, de l'autre côté, la possibilité de mettre les plus grands pédagogues, les plus grands professeurs, les plus grands penseurs, dit-il carrément. Ceux, par exemple, qui écrivent dans ces journaux, que je recommande comme penseurs haute qualité, à la portée des larges masses dans le monde entier sans discrimination. C'est l'idée qui, depuis encore une fois le début du XXe siècle, fascine les hommes politiques à l'idée des économies vertigineuses qu'ils pourraient faire en ayant un seul professeur par discipline. Mais le meilleur, on paierait très cher. On réglerait ce problème. Non, sinon, des rémunérations des enseignants. Et on n'aurait plus de bâtiments, on aurait besoin de bâtiments scolaires, d'infrastructures, à gérer. Donc on serait délivré une fois pour toutes. Grâce au réseau. C'était les ondes, maintenant c'est la fibre. Et l'idée est toujours la même. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de terminer là-dessus. Ce que veut dire apprendre à l'ère numérique. Il est toujours plus commode, ça c'est pour vous permettre de vous porter aisément, de s'appuyer sur un livre qui synthétise de bonne manière le nouveau discours en train de prendre le dessus. Et nous avons choisi un livre récent, de bonne facture, qui permet de se faire une bonne image d'ensemble. Le livre de co-auteur, Sandra Enlard, E-N-L-A-R-T, et Olivier Charbonnier, qui s'intitule, le titre est à lui seul tout un programme, faut-il encore apprendre ? La réponse des acheteurs étant généralement, ben non, justement, ça ne sert plus à rien. Voilà une bonne nouvelle, en 200 pages, on apprend quelque chose qui va délivrer l'humanité dans le pire fardeau qu'elle traîne depuis le péché originel. Et donc, Marie-Claude, qui avait préparé une analyse, va.
Oui, ça fait beaucoup, parce qu'on a très envie de discuter de
tantôt. Non, mais on va faire brièvement. En fait, je crois que ça illustre entièrement les choses dont j'ai pu parler. Voilà, donc, on ne va pas se consacrer des heures.
Parce que oui, j'avais préparé pour une fois précédente quelque chose un peu consistant, très résumé, parce que j'aimerais bien qu'on ait du temps de discussion. Mais je reprendrai peut-être effectivement ta phrase, ton idée terminale pour montrer que, quand même, on peut ironiser sur Murdoch et partir de la formation, mais il y a quelque chose de très fort dans ce sentiment que par ce réseau qui permettrait de diffuser au maximum toutes les informations disponibles, toutes les connaissances de la planète, on pourra arriver à faire en sorte que chacun soit plus efficace dans le monde du travail en particulier. Et ça, j'ai trouvé textuellement, en cherchant un peu tout ce qui s'était fait sur Internet ces dernières années, dans un des premiers livres très importants de Robert Diener qui s'appelle Cybernétique des sociétés. En anglais, The Human Use of Human Beings. C'est très intéressant, ça date donc exactement de 1950. Et il interroge cette question de l'information. Et comme tu as terminé sur l'idée du travail, ce qui nous porte à apprendre, c'est l'idée de travail. Dans les termes de Diener, je peux vous le dire, c'est l'efficacité à l'intérieur de notre milieu. Plus, voilà l'objectif de la vie hein, et de la diffusion de l'information. L'information, c'est un nombre pour désigner le contenu de ce qui est échangé avec le monde extérieur à mesure que nous nous y adaptons et que nous lui appliquons les résultats de notre adaptation. Une information qui va produire une action. On est un peu dans ce que tu as suggéré à propos d'apprendre. Donc, le processus consiste à recevoir, à utiliser l'information, et le processus que nous suivons pour nous adapter aux contingences du milieu ambiant et vivre efficacement dans ce milieu. Vivre efficacement, je coupe un peu, c'est vivre avec une information adéquate. Donc, l'utopie de ces gens-là, et je vais voir l'aspect positif, c'est de mettre à la disposition de tous, on voit aussi l'idée d'éducité par derrière, tous les moyens disponibles, accumulés par l'humanité, parce qu'on peut tenter des faits bruts dans les informations, il y a des connaissances qui deviennent accessibles à tout le monde. Les mettre à la disposition de toutes les personnes, quelles que soient leurs origines et leur lieu d'habitation, pour qu'elles puissent vivre efficacement dans le monde dans lequel elles sont. Alors, ça c'était pour faire un peu l'avocat du diable. Tu as parlé de ce livre-là, moi j'étais partie de trois titres, enfin de trois expressions, et il se trouve qu'elles sont toutes à des dates rondes. La première à laquelle j'ai lancé tout de suite quand j'ai voulu travailler sur Internet, c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué dans les années 80, qui est un livre, je ne sais pas si certains connaissent, de Seymour Papert. C'est un mathématicien du MIT qui est un des pionniers de l'intelligence artificielle, qui a écrit un livre qui a eu beaucoup d'écho et qui a été traduit immédiatement. C'est donc 1980, 81, en France, chez Flammarion, on a le jaillissement de l'esprit, ordinateur et apprentissage. C'est un plaidoyer enthousiaste pour l'apprentissage par l'ordinateur, avec l'idée que, justement, c'est l'objectif de l'intelligence artificielle, ça poursuit que si on arrivait à comprendre comment fonctionnait l'esprit humain, on allait pouvoir rendre les ordinateurs intelligents et donc faire apprendre l'ordinateur. Et donc, son travail consistait à décomposer, justement, à faire ce qu'on essaie de faire encore aujourd'hui, 30 ans après. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre ? Et on avait été sollicité quelques pédagogues pour faire une formation justement dans ce domaine de l'intelligence artificielle, et on avait senti qu'ils nous demandaient à nous de leur donner ce qu'on savait sur la manière dont fonctionne un enfant qui apprend. Et c'était total, comme on le sait tous, mais l'espoir était là. Et ce type-là, si on le relit, moi je l'ai relu pour besoin de la cause, il était dans un, non seulement enthousiaste, mais fanatique de Piaget, par exemple, d'une réflexion épistémologique qui fabriquerait un processus d'apprentissage en fonction d'une analyse de l'objet qu'il faut apprendre. Par exemple, si on doit apprendre les mathématiques, on fait de l'épistémologie des mathématiques et on étudie la structure du nombre. Et on voit quels sont les aspects conceptuels, abstraits, etc., qui constituent le nombre, et ça permet de décomposer les démarches qui vont nous amener à aider les enfants à apprendre le nombre. Donc il y avait l'idée de décomposition, il y avait l'idée d'action, enfin tout piégeait, je vais pas revenir, mais je vais un peu détailler dans mon topo. Ça c'est 1980, échec, mais avec une idée très, très porteuse sur la décomposition des gestes et la possibilité de travailler avec les enfants sur... on leur faisait apprendre en fait l'algorithmique, hein, tout bêtement c'était l'apprentissage d'un langage de programmation très simple qui permettait d'agir sur les choses et de décomposer des activités. Le deuxième texte, c'est encore un article de journal, alors là, on peut s'en souvenir, c'est donc 20 ans après, c'est 2000. Un ministre de l'Éducation nationale dans le monde, le 8 avril 2000, je vais noter parce que ça ne peut pas échapper, c'est mieux que mon autre, il dit ça exactement. Le service public d'éducation va avoir désormais un concurrent redoutable. Ce n'est plus l'enseignement privé sous contrat, c'est l'Internet. L'Internet qui éduquera et contrôlera sans punir, on avait oublié ça, qui aidera chacun à son rôle, ça fait la visualisation, Internet va tout balayer. Cette phrase a été reprise partout. 2000, le ministre être pronostique ou affiche son souhait profond. Plus de problème de budget. Internet va tout déléguer. Alors, je me suis dit que j'allais comprendre parce que.
Et il apparaît dans quoi,
dans Le Monde, 8 avril 2000. Je le trouve encore sur Internet. Si vous mettez Internet va tout balayer, ça revient. Quel ministre, Claude Alec, notre ancien président. C'était Claude Alec. Et alors, la question qu'on peut se poser à partir de ça, là, c'est quand il a dit Internet va tout balayer, le tout c'est quoi? Donc, je vais vous dire, je vais faire quelques petites suppositions. Et puis le troisième titre, Marseille à sa illusion, on est tombé dessus dans une librairie comme ça, faut-il encore apprendre? Et ça c'est intéressant, point d'interrogation, parce que jusqu'à présent, on l'a vu avec ses mots à terre, on l'a vu un peu avec Alex, c'était comment apprendre, dans quelles conditions, avec quels moyens, etc. Là, on arrive à 2010, c'est radical. La question, c'est plus ni comment, ni avec quel pédagogue, et comment on va les payer, c'est faut-il encore apprendre. Et là, on voit une évolution de la pensée qui est assez intéressante, parce que ces gens-là, alors quand on cherche un peu, on voit qu'ils sont chercheurs en sciences d'éducation, qui sont très informés de ce qui se fait dans les sciences d'éducation, mais qu'ils ont par ailleurs un bureau d'études. Et que dans ce bureau d'études, ils vendent des services pour tout ce qui est de l'ordre de l'apprendre à apprendre. Parce que s'il ne faut plus apprendre, il faut peut-être encore apprendre à apprendre. Et donc, on va vous offrir ce que l'école ne peut pas vous offrir dans ce sens-là. Donc, c'est un livre intéressant parce qu'il est plein de bons sentiments, il remet en question. Il énonce tous les fantasmes, toutes les utopies possibles autour d'Internet en montrant que tout ça c'est très illusoire, mais quand même que ça a quelque part un élément de vérité et qu'il faut donc le prendre en compte. Et on voit à la fin que c'est pas totalement désintéressé. Il y a un peu de conflit d'intérêt dans l'histoire. Alors, si on revient, je vais essayer de ne pas être trop long. Qu'est-ce qu'Internet pourrait balayer dans l'esprit d'un ministre de l'Éducation nationale qui s'en sort plus, d'avoir un coup d'échec, etc. Ça bon, en dehors de l'histoire de financement, Marcel l'a dit un petit peu, ça pourrait balayer le lieu école, le lieu, un espace très précis. Qu'offre Internet, je l'ai dit un petit peu en parlant de BNR, la cybernétique, c'est une information déterritorialisée. Il n'y a plus de lieu, il n'y a plus d'espace précis où l'information va être transmise. Elle peut être accessible en tout lieu, à tout moment on y reviendra, mais en tout lieu et hors institution. Là où Marcel a une vue un peu partielle de la question de la France, c'est qu'il la voit toujours à l'intérieur de l'école, et ce que Internet balaye, c'est justement le lieu école et l'institution scolaire. En mettant à la portée de tous ces connaissances et ces informations, il y a ce balayage-là, et c'est pas rien, effectivement, si on veut réfléchir à ce que signifie apprendre en relation avec ce que fait une institution de la culture. Ça peut. Alors, ce que disent ces auteurs-là, c'est exactement ça. Le choc d'Internet, c'est la disponibilité absolue, l'accessibilité de toutes les connaissances et toutes les informations, et en tout lieu. On voit bien ce que ça remet en question sur le plan du rapport entre le fait d'apprendre et toute une culture et un langage, une langue plutôt, une histoire des savoirs qui sont transmis. Là, il y a une forme de, je n'ai pas d'autre mot que de détérioration voulue, mise en exergue et favorisée. L'autre élément vous l'attendez évidemment, c'est le temps, la durée, la progression. L'idée d'Internet, c'est à tout moment, à chaque instant, on peut obtenir l'information dont on a besoin, mais pas pour après, mais c'est l'information quand on en a besoin. Et l'idée qui est celle d'apprendre, en tout cas dans notre tradition scolaire, c'est l'idée d'une progression, l'idée de la durée, l'idée d'un curriculum, ces notions qui sont balayées avec cette histoire-là. Le programme scolaire, les progressions à partir des savoirs élémentaires, avec des acquisitions qui ont une certaine organisation logique, une progression, une ratio studiorum, ou quelque chose qui est de l'ordre d'une logique des enseignements, ça disparaît. Au profit d'une réponse à des questions, des besoins, des sollicitations de l'instant. Donc c'est quand même une remise en question sur laquelle il faut réfléchir. Et ce qui disparaît aussi, c'est bien sûr l'idée que il y aurait des savoirs nécessaires à tous et des savoirs que la collectivité aurait la charge de transmettre. Ça, c'est la négation, le balayage de ce problème qui prend la tête de tous les ministres de l'Éducation nationale depuis que l'institution existe. Quel savoir transmettre à l'école? Est-ce qu'on va planter les nouvelles connaissances? Est-ce qu'on va balayer celles qui semblent un petit peu des élèves périmés ou qui ne sont pas tout à fait dans l'actualité, les travaux dans ce domaine, etc. Là, le problème est résolu. On peut trouver tout ce qu'on veut sur Internet, les savoirs anciens, la physique newtonienne, mais aussi la physique quantique, et puis, etc., etc., comme on veut, et dans le désordre le plus grand. Donc, le ministre de l'Éducation nationale, on comprend qu'il soit assez enthousiaste à cette idée. Tout y est, et chacun trouvera quand il en aura besoin. Alors, ce qu'on trouve aussi, et c'est plus dans. Enfin, je pense que les balayages, c'est ça, c'est les savoirs, la durée, la progression, et le lieu, et donc l'inscription quand même dans une géographie, une culture particulière. Et ça, c'est fascinant, c'est vrai qu'on peut trouver, il faut le savoir. Voilà, donc je n'ai pas suivi mes notes, je sais plus ce que je voulais dire. Ça c'est le côté enthousiasmant. Alors il faut savoir en plus effectivement pourquoi ça a pu séduire d'autres qu'un ministre qui a ses responsabilités. Il y a quand même un public pour se poser la question. Enfin, moi je suis bien placé pour le savoir parce que dans mon université on est fanatique de l'enseignement à distance, l'enseignement par internet, j'avais passé une journée que là-dessus. Donc il y a des raisons pour adhérer à tout ça si on regarde un peu ce qui s'est passé depuis une cinquantaine d'années, c'est vrai que l'idée de paper, elle est présente partout, c'est-à-dire que l'enseignement traditionnel, c'est un enseignement canalisé qui ne fonctionne pas, avec des programmes sclérosés, etc. L'Internet, en fait, permettrait carrément de laisser tomber tout ça. On arrête avec l'enseignement traditionnel. Ce que dit Papert, c'est ça. Il faut un apprentissage naturel, spontané, de l'individu en interaction avec son niveau. Il y a le côté, je pense, très évolutionniste ou adaptationniste qui revient en force, c'est-à-dire que ce qui est prioritaire, c'est l'adaptation au milieu, donc la réponse aux besoins, et finalement, il y a une autre définition d'apprendre qui est en filigrane dans tout ça, c'est on répond, on apprend pour résoudre un problème. Ça c'est une vieille histoire aussi, mais ça date des années 50, toute cette théorie didactique du problème solving. Johann Gettissi m'a apporté un livre d'un mathématicien américain, enfin hongrois, mais vivant aux États-Unis, qui a écrit un plusieurs livres sur la bibliothèque et c'est autour de l'apprentissage par la problème solving, par la résolution de problèmes. Avec l'idée de base qui est très forte quand même, qui a sa part de vérité, que l'on apprend que lorsqu'on se pose un problème, lorsqu'on vit un déséquilibre, qu'on a un problème donc, d'adaptation au milieu, disons ça, très large, une difficulté, un déséquilibre, une question non résolue, boum boum, on va voir sur Internet, c'est ce que nous disons tous aujourd'hui, d'ailleurs, hein, et l'idée c'est que ça pourrait se passer comme ça. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas d'apprentissage. C'est pour compléter pourquoi, comment on apprend là, tes derniers points, Marcel. Ça, c'est une idée qui est extrêmement présente et qui n'est pas prête à disparaître. Hein, parce qu'on la retrouve dans toutes les réflexions sur, sur la didactique. Et bon, ça, c'est donc l'idée de. On apprend quand on a une question, ça peut. S'associer à l'idée qui est développée par Carl Rogers, là, Liberté pour apprendre, qui a eu beaucoup d'écho aussi dans les années 70. On apprend quand on veut et ce dont on a besoin. Il y a un chapitre dans ce livre, apparemment certains connaissent, Enseigner à apprendre, où il dit je constate, je m'aperçois, j'ai finalement l'impression, hein, parce qu'il est très prudent, que le seul apprentissage qui influence réellement le comportement d'un individu est celui qu'il découvre lui-même et qu'il s'approprie, celui qu'il découvre lui. Donc l'idée très présente dans ce questionnement « Faut-il encore apprendre à l'école ?» c'est les vrais apprentissages. Ceux qui sont vraiment intériorisés, appropriés, etc., ce sont les apprentissages qui émane d'un besoin, d'un déséquilibre, d'un problème, et qu'on a découvert par soi-même. On est arrivé comme un gâteau sur des questions comme ça, évidemment. Donc c'est toute cette tradition qu'on pourrait rassembler sous le vocable d'autogestion pédagogique. Hein. Il y a énormément de littérature sur la question. Éducation, autogestion éthique, la pédagogie libertaire. Et ça va avec, de pair avec l'idée qu'on apprend, peut-être qu'on apprend à l'école, on n'est pas méchant, mais on apprend surtout à l'école. C'est vraiment, puisque précisément c'est dans les situations où on rencontre une difficulté, un obstacle, qu'on est éveillé à la démarche d'aller chercher la solution quelque part. Et Internet ne fait que rendre la chose plus facile, mais c'est vrai que ça existait avant Internet. Tous les lieux culturels, toutes les bibliothèques, l'accès aux livres, ça représentait aussi une possibilité d'apprendre. Donc c'est pas totalement idiot comme idée, simplement elle est développée là pour défendre une position qui est finalement, on pourrait balayer toutes ces vieilles lunes d'institutions scolaires. L'idée de l'apprentissage par projet, etc., learning by doing, on a une expérimentation qui est assez intéressante, qui s'appelle la Malapad, qui nous vient encore des États-Unis. C'est drôle d'ailleurs de voir le rôle des scientifiques dans tout ça, hein, parce que là, ce sont les physiciens, hein, le grand promoteur de learning by doing, expérimentation à l'apprentissage par l'expérience, c'est Georges Carpac, en France, et Léon Lederman de la Chicago, dans les milieux populaires, et ce sont des physiciens, hein, mathématiciens d'un côté, physiciens de l'autre. Bon, on parle beaucoup de Piaget, de Freinet, etc., mais les scientifiques jouent leur rôle aussi dans la diffusion de ces idées-là, qui ne sont pas totalement folles, d'une certaine manière, hein, il faut le reconnaître quand même. Je dirais, oui, ce qu'on apprend à lire leur bouquin, dont je vous épargne le compte-rendu peut-être, hein, c'est que il y a quelques délits quand même très importants. On lit livre, ils ont oublié quelque chose là. Hein, c'est-à-dire que manifestement, dans l'idée d'apprendre, il n'y a absolument pas. Mais là, pour le coup, c'est volontaire d'ailleurs, parce qu'ils disent que on ne sait pas.
ce que c'est que l'apprendre, ce que c'est qu'apprendre. On n'a que des théories d'apprentissage, alors les théories les neurosciences, les théories cognitives, les théories constructives, ils sont grands, ils donnent tout ça, puis ils disent, il n'y a qu'une chose commune à toutes ces théories, c'est l'importance première des pédagogies. Et donc, le truc qu'on voit apparaître dans un film libre, c'est que finalement, on ne sait pas ce que c'est qu'apprendre, mais ce qu'on sait, c'est que ça n'a pas besoin de pédagogie. La relation maître-élève, c'est quelque chose qu'il déteste. C'est le déni de la relation physique, charnelle, la relation de transmission, la transmission d'une passion pour la connaissance, tout ça, ça n'existe pas. Puisque tout vient du désir de la subjectivité en question, on ne voit pas pourquoi il aurait besoin de rencontrer une autre subjectivité. C'est un sujet qui s'intéresse à un savoir parce qu'il a une déstabilisation. Donc là, le déni de la relation physique et de la présence de l'adulte, à la limite, on pourrait mettre des tuteurs pour aider les jeunes à utiliser Internet. C'est ce qu'on en place, nous, dans l'enseignement à distance, dans les universités. Mais les tuteurs n'ont pas besoin d'avoir les connaissances. Ils sont là pour aider à actionner les boutons et trouver les bons sites quand on a besoin de faire un exposé. Ce qui est oublié ou dénié aussi, c'est ce que... Alors là, Marcel a eu raison d'assister. Là, pour le coup, c'est une naïveté extraordinaire. C'est tout ce qui est nécessaire pour pouvoir accéder, quand on a un enfant, aux connaissances magnifiques, hein, énormes, transmises par Internet, à commencer par la capacité à maîtriser la langue et la lecture. C'est énorme, énorme, énorme. Alors on a envie de dire, mais quand est-ce qu'on apprend à lire dans notre histoire? Et quand est-ce qu'on apprend à écrire et à parler? Ça, c'est pas leur problème, manifestement. Ils ont oublié d'y penser. Ce qui est oublié ou dénié, mais ça j'ai un peu suggéré, c'est tout ce qui est dans de la lenteur, de la réflexion, de l'assimilation, etc. C'est vraiment la rapidité, et c'est ça qui est fascinant. Tout de suite, on peut résoudre son problème, et clac. Et l'idée d'une progression raisonnée, ça leur échappe totalement aussi. Et puis, le gros oubli, pour moi, c'est aussi une des choses sur laquelle Marcel a insisté, c'est le caractère institué de toutes ces connaissances et de cette culture à laquelle on accède. On voit, c'est un éclatement total des connaissances, dont le sens, la cohérence est à construire par celui qui va essayer d'approprier, mais il va faire un effort monstrueux pour faire par lui-même quelque chose qui est. S'il y a une école qui est transmise par l'école, hein, c'est-à-dire la mise en sens et en cohérence de tous ces savoirs. Et donc, ça devient assez délirant, mais ça, ils n'ont pas l'air de le percevoir, tellement abusé par effectivement une conception extrêmement individualiste et assez, je ne sais pas si il faut dire subjective, hein, mais en tout cas très personnel de l'acte d'apprendre. Et tout ce qui est fabriqué par une histoire, l'histoire des sciences, par une complexité qui s'est établie avec le temps et que les enseignants sont capables de transmettre, ça c'est complètement abandonné, dénié, avec, il me semble, un peu de mauvaise foi, parce que comme je vous l'ai dit, ce qu'il y a derrière, c'est que faut-il encore apprendre? Je vous l'ai dit que je vais finir par là. En fait, ils soutiennent l'idée de la fois qu'il ne faut plus apprendre, mais il faut apprendre à apprendre. En gros, il faut apprendre à faire des liens entre toutes ces informations éclatées, désordonnées, complètes. Hein. Et ils vont. La martingale, c'est en gros, c'est un peu ce que tu as dit, c'est le logiciel, c'est pour ça que c'est génial, c'est mind mapping. Alors j'ai cherché parce que il y a
un monsieur qui vend du logiciel de mind mapping, Tony Buzan, auteur de grande renommée, etc. Et c'est en gros, c'est l'idée qu'on peut développer
les capacités. Alors il y a toute une tradition, hein, parce qu'à Feuerstein, il y a les activités mentales, gérer son esprit, etc. Mais Tony Buzan est d'ailleurs pas mal, je n'ai pas regardé le bouquin, mais je les ai, dessine-moi l'intelligence, une tête bien faite, etc. Et il propose effectivement des systèmes de représentation des connaissances. Puisque la connaissance est une représentation, eh bien, je vais vous aider à faire des images. Donc, ça a l'air très sommaire. Hein. On fait des images avec des flèches, etc. Et c'est du mind mapping. Voilà. Donc, ce que donnent ces gens-là, après avoir fait Internet, c'était pas mal, mais ça ne suffisait pas. Il faut quand même former les jeunes à faire des liens. C'est des logiciels et des formations d'adultes pour apprendre à gérer sa représentation et se faire des images mentales de toutes les données que l'on va trouver sur Internet. Voilà. Et avec l'idée quand même qui est importante pour le sujet qui nous intéresse, c'est que il y a une disparition totale, ça s'appelle, on va dire le maître provocateur, mais de l'adulte qui maîtrise les savoirs et qui est susceptible de les transmettre. Ce que fait gagner Internet, c'est une espèce d'anonymat dans la transmission des connaissances. On ne sait pas d'où ça vient. D'ailleurs, c'est vrai que c'est assez fréquent qu'on ait du mal à trouver l'auteur, même quand il s'agit de textes scientifiques. Faut chercher assez loin parfois, et donc il n'y a pas de risque d'identification à un modèle et d'apposition de sa valeur par un maître. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, non, ça fait une grande discussion.
On voit très bien justement comment toutes ces démarches sont intéressantes par le problème qu'elles ouvrent. Parce qu'il y a tout de même à l'œuvre une conscience de la difficulté qui est, au moins, d'avoir approfondi la littérature pédagogique autour de l'usage d'Internet, mais en gros, tout s'organise autour d'un style d'avertissement. On commence par célébrer les louanges de l'instrument, de faire ressortir tous ces atouts, tout en disant attention, attention, faut pas quand même aller jusqu'au bout, il y a quelque chose d'autre. Il faut que, donc, alors, et c'est là où on fait apparaître des offres de services, soit anormal. Et ce qui est intéressant, c'est de décrypter ces offres de services. Alors, effectivement, il y a un mot d'ordre qui est absolument à nouveau. D'abord, l'ordinateur est très loin, qui est apprendre à apprendre. Et la solution est, oui, on apprend à faire des choses sur Internet, mais ça ne suffit pas. Il faut quand même apprendre à apprendre. Donc il y a un niveau méta, hein, ça revient souvent, il faut des méta-connaissances par rapport aux connaissances de base. Et comment on les acquiert, c'est là où c'est pas clair du tout, et c'est là le point intéressant.
Pourquoi elle dépend d'avoir des connaissances?
Oui, mais. Les inventaires varient selon les inventeurs, les écoles, les groupements, mais c'est ce questionnement qui est intéressant et qu'Internet fait naturellement émerger, qui doit retenir notre attention et qu'on pourrait explorer tout à fait à fond. Ça mériterait de l'être, parce que je pense qu'il y a là un support pour faire apparaître à contrario comment ça se passe réellement au regard de l'image mythifiée de ce que veut dire apprendre que nous donne cet instrument. Un instrument, donc il faut dire, pour commencer, qu'il est incapable de produire ses propres conditions d'utilisation. Internet, c'est un outil pour ceux qui savent ce qu'Internet est incapable de leur apprendre. Personne n'apprendra jamais à lire sur Internet. Et encore moins à écrire, d'ailleurs. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors, ça, c'est un outil, effectivement, extraordinaire. Tous les usagers reconnaissants. Mais ces emplois pédagogiques sont un vrai problème qui va, je crois, créer une problématique très intéressante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le fait d'apprendre que d'obtenir des renseignements? Parce qu'en fait, le mot même d'information me paraît trop général pour dire ce qu'Internet sait faire. Internet nous en renseigne. Là, bon, sur ce très général, il nous apprend, effectivement. Mais ce n'est pas ça qu'on apprend dans la situation scolaire. Ah, c'est là où il faut en revenir. Parce que l'une des choses qu'on voit aussi se profiler chez des gens de bon sens qui existent dans le monde éducatif, c'est de dire, faisons le départ entre ce qu'est l'école élémentaire, ou bien évidemment, c'est absurde de vouloir se servir de machine, on peut leur apprendre à s'en servir, mais plutôt plus. Et puis l'école, dans le rang secondaire, où il s'agit d'acquérir des connaissances positives chez des enfants, des jeunes qui ont déjà étudiant la lecture, la lecture, le calcul, et où on peut alors là passer en grand à l'utilisation de ces technologies. Ce qui est complètement escamoté dans ce discours et qui me semble très intéressant, c'est le fait précisément qu'en réalité, d'une autre manière, l'école élémentaire se poursuit au degré supérieur et à mes yeux encore à l'université. L'Internet est un instrument très utile dans ce cadre, mais c'est le même style. C'est-à-dire qu'on continue d'apprendre à lire, on continue d'apprendre à écrire, on apprend à compter, ça, on n'en sort pas. Et c'est ce que, précisément, cet instrument ne peut pas faire, quel que soit son apport. Et ça va nous permettre, je crois, de questionner le spécifique de ce... Encore une fois, on apprend, quand on s'est dit, je vais prononcer une phrase très importante, on apprend en dehors de l'école, essentiellement en dehors de l'école. Oui, ça ne veut pas dire la même chose. C'est là où le travail sur les concepts est décisif. C'est de quel apprendre parle-t-on? Ça, c'est sûr. La rue, les circonstances de la vie, la télévision, nous apprenons tous les jours énormément de choses en dehors d'une situation scolaire. Mais ce qu'on apprend dans l'institution scolaire est spécifique. Elle est d'un autre ordre. C'est ça le point sur lequel il va falloir se concentrer. Et les opérations qui sont en jeu là-dedans, alors, tout n'est pas. Intuitivement, il y a des observations justes à propos de ces fameuses cartes mentales. Mais tant la notion de représentation que la notion parfaitement métaphorique, une carte mentale, moi je veux bien. Je veux dire, il y avait jadis, on a connu les arts de la mémoire, qui étaient quelque chose d'analogue comme moyen de mémoriser. Mais ce sont des images. Dans le cas des arts de la mémoire, c'était une technique, chose. C'est une image qui escamote complètement la nature des opérations dont il s'agit au travers des fameuses cartes mentales, parce qu'il s'agit d'une organisation réflexive du savoir. Ça n'a rien d'une carte. Vous ne vous mettez pas une carte dans la tête. C'est pas comme ça que ça se passe.
Non, mais ça va aller les voir, mais enfin.
Non, non, mais c'est tout vu, j'en ai vu. Je sais très bien comment ça va. C'est pas comme. Effectivement, ce sont des métaphores qui sont très fortes, mais totalement trompeuses, y compris sur la nature des représentations qui sont en cause. Donc, vraiment, je crois qu'on a là un chantier énorme, parce que les incidents vont être grandes, ça, nous sommes partis pour ça, par rapport auquel toutes ces catégories. C'est là, en un sens, où les situations difficiles sont toujours instructives. Nous allons pouvoir les préciser une par une en essayant de reprendre tout à fait à la racine ces questions sur ce que veut dire apprendre à l'école. Parce que, encore une fois, il y a une, toute expérience est instructive, sens fort, ça c'est la spécificité humaine, on tire des leçons, l'interaction entre le milieu, l'environnement, les autres, c'est sûr. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est les formations culturelles qui ne sont accessibles qu'au travers du langage écrit et dont le maniement suppose un type d'exercice intellectuel et mental tout à fait particulier, dont on peut référer des étapes et des modalités. Voilà.
Bon, effectivement, il faut que, quand même, excuse-moi, tu supposes à qui ce qu'il faudrait démontrer, parce que manifestement, ce qui a dans l'esprit tous ces gens-là, beaucoup d'autres que j'ai pu lire, c'est que l'école, c'est un monopole de la transmission du savoir qui est périmé et qu'il faut balayer. C'est-à-dire qu'il y a toute une idéologie là-dessus. C'est pas seulement
ça rentre tout à fait dans mon programme, dans ce que j'expliquais tout à l'heure, la critique des modèles épistémiques de toutes ces théories auxquelles il faut expliquer, par rapport auxquelles il faut expliquer ce dont il s'agit. C'est périmé, c'est même pas périmé, c'est tout simplement, il ne voit pas que l'objet spécifique de l'institution est totalement perdu de vue. C'est comme s'il n'existait pas. Et ça, c'est fondamentalement l'influence, le croisement d'un modèle politique, juridique, l'individu, et le croisement d'un modèle théorique, l'évolution. Et là, c'est l'homme seul face à la nature. Donc il n'y a pas de culture.
Avec une, j'ai oublié de dire, mais il faut savoir, une valorisation de l'instabilité. C'est-à-dire, pourquoi apprendre aujourd'hui, puisque les savoirs sont périmés le lendemain.
Ah oui,
cette histoire de prévention rapide, ça fait qu'on n'est pas amené, c'est la force des choses, on est amené à aimer l'incertitude et l'instabilité. Qu'est-ce que ça peut être? Une école qui va valoriser, tu as entendu dire tout à l'heure que la mise en ordre, l'organisation, c'était une certaine stabilité du monde. Et eux, ils voudraient une école qui favorise, parce que c'est ça la réalité d'aujourd'hui, vivre dans l'incertitude et l'instabilité.
Non,
donc on est dans deux mondes, si tu veux.
On ne parle pas de la même chose. C'est ce qu'il faut établir. C'est le mot même d'apprendre qui n'est pas utilisé dans son sens spécifiquement scolaire. Donc on parle d'autre chose. Il y a une ignorance, il y a un mal jeté sur la réalité de ce qui se passe spécifiquement dans le monde de l'éducation scolaire. Pourquoi mémoriser alors qu'on a des mémoires artificielles et voilà. Puissantes, pourquoi
apprendre les choses qui vont demain terminer.
Ça je sais, j'ai eu une discussion animée avec un promoteur de ce genre de choses à qui j'avais posé la question de me donner un exemple de quelque chose qui était terminé dans les manuels scolaires que j'avais utilisés quand j'étais enfant. Évidemment, il était incapable de m'en donner un seul exemple. Rien n'était périmé, c'était pas terrible nécessairement, mais on n'avait pas découvert depuis que la bataille de Marignan avait lieu en 1514. On pouvait trouver Arthur que j'ai appris qu'elle était en 1515, mais c'était vrai encore aujourd'hui. Et je ne vois pas
elle. L'Europe n'est pas tout à fait la même.
Non mais ça, c'est évident. C'est évident. Mais les chefs-lieux de département et la Garonne étaient à la même place.
Attention, j'ai appris que nos neurones, notre cerveau ne se régénèrent pas.
En science, on va réussir à périmer un savoir si on ne l'a pas.
Non, mais c'est ça,
c'est un
sinon il n'y a pas aucune.
Évidemment, apprendre, c'est rectifier. c'est quand vous apprenez qu'il y a des neurones dans le cerveau, vous avez déjà fait un grand pas. Le problème du conflit qui se régénère ou pas, bon, sinon c'est annexe.
Est-ce que plutôt que l'école, c'est pas Internet balaye finalement la bibliothèque?
Oui, bien sûr. Voilà.
Mais confondre l'école et la bibliothèque, c'est un peu le problème.
Ah oui. Mais il ne la balaye pas, il la met dans un certain sens.
Il est plus.
Il y a quand même aussi, on peut dire qu'il y a quand même deux mouvements, parce que vous avez beaucoup assisté sur un mouvement de dissolution de l'école, mais il faut voir quand même ce mouvement, il est symétrique d'un autre mouvement, qui est une obésité de l'école. C'est-à-dire que dès qu'on considère aujourd'hui que quelque chose est important dans la vie, il faut obligatoirement que ça fasse son entrée à l'école. Du coup, après, c'est la taille sur les heures de cours et. L'enseignement artistique, l'enseignement d'économie, l'enseignement des sciences sociales. Et, bah bon, dès quelque chose on reconnaît que c'est important, tout le monde se plaint en disant mais l'école ne joue pas son rôle. Et donc en fait, il y a ces deux choses aussi. C'est-à-dire que on ne peut pas. Alors justement, c'est poser la question de qu'est-ce qu'on doit spécifiquement apprendre à l'école. Parce qu'on a aussi le discours où l'école doit tout apprendre.
Oui, ce qu'on attend par les têtes bien faites et les têtes bien faites.
Bien sûr.
Et puis, il y en a pas plus sur le terroir.
Comment ?
Le problème n'a pas changé.
Non, le problème n'a pas changé. Il a été très bien posé par Condorcet à propos des savoirs élémentaires, la question de l'élémentarisation des savoirs. Parce qu'il était très conscient du fait que on était dans une période de progrès des connaissances fulgurantes. Que tout n'allait pas pouvoir être introduit dans cette instruction. Et donc il fallait faire un gros, gros travail d'analyse et des éléments nécessaires à la construction ultérieure des autres savoirs. Mais c'est un refaire en permanence, c'est un travail de titan. Et puis ça donne lieu à des confrontations, des discussions, des querelles de chaque année. Et c'est le vrai problème de l'école. C'est pour ça que ces discours sont entendus, parce que c'est une manière de balayer ce problème-là. Quel savoir ? Si on veut rentrer de nouveaux savoirs, il faut supprimer d'autres savoirs.
J'ai une autre remarque à faire, hein. C'est rapport à une anecdote. C'est une collègue universitaire italienne, qui a deux enfants qui sont des vrais jumeaux. C'est très impressionnant de les voir, parce que c'est vraiment, ça a l'air totalement indiscernable. Et quand ils sont rentrés au cours préparatoire, en fait, au bout d'un trimestre, les parents se sont rendus compte qu'il fallait les quitter dans la même classe, qu'il fallait les changer de classe. Parce qu'il y en a un qui apprenait à lire, et l'autre qui, lorsqu'il avait besoin de lire, demandait à son frère de faire des choses. Et là, en fait, on voit bien que ce sont les parents qui doivent faire le choix pour l'enfant, parce que lui, il a finalement, quand la question se pose, j'ai besoin d'avoir une information, il a trouvé la manière de répondre par son frère. Alors évidemment, on peut juger qu'à long terme, ça va poser des problèmes, mais là, justement, l'enfant n'est pas du tout le meilleur juge. Pour cela, je repense à ce que disait Pétrarque sur la lettre Y, il disait cette lettre aussi politique pour l'écriture, aussi fondamentale pour la vie. Parce que bon, c'est Héraclès entre le vice et la vertu, mais l'école elle est là aussi pour que quand il y a le grec, de faire les enfants du bon côté. Parce que vous disiez sur le fait qu'on n'est pas adulte, peut-être l'enfant ne peut pas absolument pas être juge de ce qui sera le bien pour lui au-delà de ce que faire.
Mais il y a le terme de fort qui a parlé, qui a été cité tout à l'heure, mais il me semble quand même que d'une façon générale, vous avez traité le problème sur le plan de l'intelligence et la capacité d'intelligence et la transmission du savoir, alors que finalement c'est quand même l'être humain qui est concerné, et que cet être humain, il est composé d'intelligence et de volonté. Et le problème de la volonté ne me paraît pas situé à sa place, parce que finalement, quand on parle d'éducation, on concerne, ou pas concerne, l'ensemble de l'homme, et concevoir, se poser le problème essentiellement et uniquement au niveau de l'intelligence, de la transmission de la capacité d'intelligence, me paraît une démarche inconsciente. Mais c'est un peu. Il y a aussi. Jeudi dernier, j'ai posé la question par rapport au fonctionnement du cerveau, mais je pense que plusieurs fois au cours de ce jeudi dernier, il a été fait allusion à l'homme dans son ensemble. On a fait allusion aussi à l'influence de la société. Je pense que si on veut traiter les problèmes non seulement de la transmission, mais ça se transmet à travers des sujets qui, eux, sont composés à la fois d'intelligence et de volonté.
Moi, j'avais envie de défendre un petit peu le map mapping, je ne sais pas si beaucoup d'entre nous l'utilisent, parce qu'en fait, ce n'est pas pour apprendre, c'est pour réfléchir. C'est pour réfléchir en 3D. C'est pour avoir une pensée qui ne se met pas sur un papier avec des points, mais qui arrive à se mettre dans l'espace. Voilà. C'est plus pour réfléchir.
Oui, c'est ce que j'avais compris. Voilà, moi, je n'ai pas eu accès à ce.
Voilà, bien,
mais elle ne dit pas que c'est pour apprendre, apprendre, donner les outils, justement, oui. Pour maîtriser les connaissances, oui. Donc réfléchir, hein, faire des liens.
C'est comme quand on réfléchit sur un grand tableau, voilà. Et qu'on met un petit peu des idées dans tous les sens, et qu'ensuite on peut aller rechercher ces idées-là pour les dérouler.
Oui, mais là ce dont vous parlez, là, très bien, c'est une technique.
Oui, tout à fait, ça n'a rien à voir.
Comme il y en a eu de très longue date, effectivement, j'ai évoqué les arbres et d'autres gens. Donc, à ce niveau-là, rien à dire. Ça relève en quelque sorte de savoir-faire qui sont très utiles, par exemple, dans des contextes de délibération collective. Il y a une grande question d'organisation de tout ce qui a été évoqué. Là, ce dont il s'agit est différent. Ce que nous avions vu, c'est de l'utilisation comme un outil d'apprentissage. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment l'idée qu'on pourrait acquérir des cartes mentales avec lesquelles, qui vous dispensent d'apprendre, puisque d'une certaine manière, vous avez une structure d'accueil qui permet de s'adapter à un environnement, quel qu'il soit, en fonction du schéma intellectuel que vous avez dans l'esprit au préalable.
C'est autre chose. Tout à fait. Mais...
Là, il y a vraiment une autre utilisation qui répond en même temps à un vrai problème, qui est celui de l'organisation des connaissances. Quand vous... Donc, puisque ce que l'expérience la plus évidente de l'utilisation d'Internet, des réseaux numériques en général, c'est la fragmentation. Donc, immédiatement apparaît la question de l'organisation. Et c'est là, les cartes mentales se veulent à ce moment-là une réponse à ce problème. Et je ne suis pas sûr qu'elles le soient. Mais comme technique, en effet, en plus, avec une forme à la visualisation. Ça, c'est un autre endroit.
Oui, et je crois que ça vient vraiment ensuite, une fois qu'on a appris, on peut...
Ça, on l'a tout à fait d'accord. Voilà. Donc, justement, c'est pas après.
C'est après.
C'est ça. C'est comme je doute qu'il soit dans un autre registre. Je doute qu'il soit possible d'apprendre le sens de la chronologie sans avoir un contenu chronologique relativement précis qu'on appelle histoire, en général. Ça, si vous, la chronologie dans l'abstrait, je ne vois pas bien comment ça peut se devenir une sorte d'organisation intellectuelle, a priori, sans contenu.
C'est pour ça que la question des fondamentaux de ce qu'il faut apprendre me paraît
inévitable, bien sûr.
Oui, parce que là, les cartes mentales, moi, ça m'a fait penser, d'ailleurs, ils en parlent aussi à toutes ces techniques de gestion mentale qu'on connaît depuis quelques années, les programmes d'enregistrement mental, Feuerstein, et compagnie. Et ça marche. Hein. Moi, dans le milieu enseignant, il y a des gens qui sont formés à ça et qui disent que lorsqu'ils transmettent ces techniques-là, les gens font des progrès énormes. Hein. Donc, c'est pas. n'y a pas de raison d'ironiser là-dessus, non. Mais bon, c'est une petite partie de la question, mais si on élimine.
Non, mais les... vous voyez, ce que vous disiez est un point important, c'est que ça rentre très exactement dans ce que j'appelais la réflexion. Savoir, c'est réfléchir sur ses savoirs. C'est jamais acquérir au premier degré. Après qu'on a appris des choses, il faut être capable de les organiser dans son esprit d'une manière qui vous les rend maniables. C'est un après-coup. Tout est dans l'après-coup. Et l'après-coup, c'est le temps de la réflexion, par excellence. Voilà, donc vous voyez, c'est bien là. Donc c'est un détournement d'une idée qui peut être en elle-même juste, au profit, pour en faire un instrument d'acquisition. Ce qui est autre chose, et là, le juge, considérable.
Ce qui est frappant, c'est que le langage utopique, c'est complètement, contrairement à l'internet, c'est complètement affecté par un langage mythique, presque. Et c'est pas seulement pour l'apprentissage, on voit la même chose pour la démocratie, c'est-à-dire qu'on a l'impression, dans nos démocraties fatiguées, et angoissé que Internet va résoudre le problème démocratique et qu'on pourra arriver sans aucune médiation, sans aucun conflit. Une espèce d'émergence d'un consensus démocratique par le biais d'Internet. Comme on pense qu'il va y avoir une émergence du savoir d'une manière un peu magique quand on va se brancher sur Internet. C'est une espèce d'outil un peu mythique comme ça qui est censé résoudre notre problème vis-à-vis de ces processus interminables du savoir et de la démocratie. C'est lieu où, au fond, il y a des médiations, il y a des processus, il y a des conflits, il faut interagir parfois d'une manière prochaine. Et puis Internet va nous résoudre ça. Donc, c'est qui ou tout devenir social qui semble pouvoir trouver une ouverture à travers Internet.
Y compris le problème que je voulais modifier, c'est-à-dire ce choix, il n'y aura plus besoin, parce que vous avez tout à fait raison sur ce double mouvement. Et la grande promesse, là, des réseaux numériques, c'est que ce problème sera résolu. Parce que, en fait, les gens trouveront d'eux-mêmes les savoirs qui leur sont utiles. Donc ce sera, et en plus, ce sera démocratique, ça ne viendra pas d'ailleurs, il n'y aura pas quelqu'un pour dire qu'il faut leur apprendre l'économie, les disciplines artistiques, puisque d'eux-mêmes, ils s'orienteront en fonction de leur goût, de leurs intérêts fondamentaux. C'est-à-dire, c'est la suppression de la dimension du choix collectif.
Oui, on fera ça avec des bémols quand même, parce qu'on les voit tous parler de l'égalité, de ce combat de la fracture numérique, ça, il y a une unanimité.
Mais non,
ce qu'on ne dit pas, c'est le pouvoir des moteurs de recherche et des référencements, etc. C'est-à-dire, tu dis qu'ils vont trouver ce qu'ils veulent. Mais ils vont trouver ce que le moteur de recherche va leur proposer. Et donc là, il y a une domination. Oh, ben, attends.
Il faut comprendre ce que veut dire égalité dans ce cadre-là. Hein. C'est l'égalité d'accès.
Oui, égalité d'accès qui va de pair avec une forme de domination,
limitation
de la liberté, parce que c'est pas la même chose de chercher sur Google et de chercher dans une bibliothèque. C'est sûr qu'on trouve moins facilement dans une bibliothèque, mais sur Google, on va avoir ce qui correspond à un nombre de clics effectués par un certain nombre de personnes, et c'est pas la liberté totale.
C'est ce que
c'est
les,
vraiment, on peut dire.
C'est, mais là, fais attention, parce que ce que les zélateurs de la chose expliquent très bien, c'est que le ranking qui fait arriver Telltale en tête est le produit d'un vote.
Ah oui.
Et donc c'est démocratique, parce que c'est la majorité qui a déterminé que tel article idiot de Wikipédia est ce qu'il faut lire de mieux. Voilà. Hein, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que le moteur, il est neutre. Du point de vue des idées.
Je pense que pour aller plus loin dans cette voie, il faudrait s'intéresser quand même aux techniques documentaires. Je ne suis pas fanatique de la méthodologie, mais il me semble que là, ça a acquis une importance cruciale, parce que c'est beaucoup plus difficile d'apprendre à naviguer justement avec des moteurs de recherche ou des banques de données que d'apprendre à servir un fichier publicateur. À mon avis, quand je vois ça avec mes étudiants, il me semble qu'il y a un véritable apprentissage à faire. Pour ne pas se laisser illusionner sur la liberté, justement, sur Internet, donc ça suppose de savoir à peu près comment ça marche, peut-être que j'en comprenne quelque chose, parce qu'on a des secrets aussi autour de ça.
Ils vont jamais plus loin que la troisième page des occurrences de Google. Et les informations à cette page-là, elles sont à réviser, moi, je dis.
Il faut leur apprendre le sens de l'époque.
Mais quand on parle de majorité, finalement, on se fait une forme de pouvoir et on a pas, on doit réaliser aussi que cette majorité peut être travaillée par des partis politiques qui sont des manifestations aussi d'un pouvoir et d'une volonté qui n'a pas été analysée. Hein? Il y a une relation entre le pouvoir politique comme ça à nous et le fait que l'être humain est composé d'intelligence et de volonté et que cette volonté doit également être intégrée, puisqu'on a parlé tout à l'heure, on a cité le mot sujet et jeudi dernier il était question de l'homme.
Voilà. Juste une question. Vous avez très peu abordé la filiation entre la pédagogie libertaire et puis tout ce discours. Parce que moi, il me semble qu'il y a une filiation nette, c'est une réactivation de tout un discours des années 50, 60 sur la pédagogie libertaire.
Mais qui n'a pas l'air de l'être, parce que ce qui est mis en avant dans ce discours libertaire sont les motivations politiques. Alors qu'ici, ce qui est mis en avant, c'est l'offre technique. Mais évidemment, ça la rencontre.
Oui, vous avez évoqué la dernière
évidemment. Oui,
bien sûr. Et puis, là, il y a un bouquin du devoir qui s'appelle autogestion, apprentissage,
etc. Le parallèle qui était tout à l'heure avec la politique et la pédagogie, quand vous lui dites technique, il est évident. Qui fonctionne également dans la loi.
Merci de vous remercier. Pour ce qui se parle pour cet ensemble, la séance s'arrête, parce qu'on va bien aller comme
renvoyer. Voilà, oui. Et puis, vous rappelez que donc, il y a un peu qui a fait Michel Boucher à la Péritif, qui s'est passé ici avec Marcel sur la société, qui est donc le 14 et 15 octobre, dans le titre provisoire et Marcel Gaucher et l'anthropologie. Vous êtes tous combien et bon, on continuera aussi à vous demander de venir de temps à autre, c'est un plaisir, si vous avez illustré un petit peu ce que vous avez dit sur un plusieurs billets. Quand il est œuvré sourdement dans la modernité, on lui donne une extrême direction. Donc, on vous remercie.